Bienvenue sur France Culture, il est midi et demi. Le journal, Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Annoncé depuis de longs mois, c'est le jour J pour la procédure en destitution de Donald Trump. L'impeachment souhaité par le Parti démocrate en pleine campagne présidentielle. Trump dénonce une chasse aux sorcières et ne sera pas présent à l'ouverture des débats devant le Sénat américain. Dossier complet à suivre au début de ce journal. Nous appellerons notamment notre correspondant à Washington, Loïc Loury.
En Chine, le virus qui provoque des pneumonies a fait 6 victimes selon un nouveau bilan. Partout dans le monde, de nombreux États prennent des mesures de précaution dans leurs aéroports. Nous ferons point dans votre journal.
Une enquête qui met en lumière l'antisémitisme du quotidien. Un juif sur trois se sent menacé en France, selon une enquête IFOP pour la Fondation pour l'innovation politique et l'American Jewish Committee. Analyse à suivre.
Objectif, lutter contre les contenus haineux sur Internet. La proposition de loi Avia revient à l'Assemblée aujourd'hui et elle divise ses détracteurs, estimant qu'elle nuit à la liberté d'expression. Nous poserons les termes du débat avec Maxime Tellier.
Et puis, invité du journal de 12h30, la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson, alors que son texte anti-gaspillage revient dans l'hémicycle, la ministre qui, dans une interview au Figaro ce matin, dénonce la montée d'un populisme vert. Et puis après ce journal, on vous retrouvera, Olivia, pour la grande table des idées.
C'est un tout jeune professeur au Collège de France que nous recevons à partir de 12h55. Il s'appelle William Marx. Il est auteur d'une petite dizaine de livres, dont La haine de la littérature et Le savoir gay. Il entre donc au Collège de France avec une leçon inaugurale qui l'axera sur l'importance d'une bibliothèque mondiale. Pourquoi ce qu'on lit dit aussi assez long de ce que nous sommes. Nous en parlerons avec lui dans une vingtaine de minutes.
C'est une procédure qui fera date dans l'histoire politique américaine, celle engagée contre Donald Trump en vue de sa destitution. Le milliardaire, troisième président américain à subir cette procédure d'impeachment, le dernier en date étant Bill Clinton à la fin des années 90. Alors les débats commencent aujourd'hui devant le Sénat, sans l'intéressé qui a préféré s'envoler pour la Suisse, pour le Forum économique de Davos. Trump est accusé par les démocrates d'avoir fait pression sur l'Ukraine pour lui demander d'enquêter sur Joe Biden, l'un de ses potentiels adversaires à la prochaine présidentielle. Trump dénonce une chasse aux sorcières. Et si l'issue de la procédure semble connue d'avance, la bataille qui va s'engager devant la Chambre haute sera assurément très suivie. Correspondance à Washington de Loïc Loury.
Au cours des prochaines semaines, le Sénat américain va se transformer en tribunal. John Roberts, juge en chef de la Cour suprême, dirigera la procédure avec, face à lui, 100 élus en guise de jury, impossible de s'absenter, ce qui va compliquer la campagne présidentielle de plusieurs candidats démocrates. Dans chaque camp, les porte-voix de ce procès hors normes sont connus. 7 élus de l'opposition serviront de procureurs. Le président, lui, sera défendu par près de 10 avocats, parmi lesquels plusieurs noms très connu, Kenneth Starr notamment, qui avait mené l'enquête sur la liaison du président Bill Clinton avec Monica Lewinsky. Pour le reste, le procès promet d'aller vite selon le souhait des républicains. La seule question est de savoir si des témoins seront entendus, car l'issue de la procédure, elle, ne fait aucun doute. Le camp de l'actuel président domine le Sénat et acquittera Donald Trump.
Alors, les avocats de Donald Trump ont déjà appelé le Sénat à acquitter immédiatement le président des États-Unis. Ils ont transmis à la Chambre haute un mémorandum de 110 pages dénonçant un processus truqué et une perversion dangereuse de la Constitution. Une procédure qui intervient en tout cas en pleine campagne pour la présidentielle. Quel impact peut-elle avoir et comment peut-elle être utilisée de part et d'autre? Question posée au politologue Dick Howard, joint à New York par Nadine Hempstein.
Il aura ses féroces partisans qui vont faire remarquer que dès l'élection en novembre, les démocrates commençaient à parler de destitution, commençaient à parler de tricherie, commençaient de lancer des soupçons. Il y a eu tout le ramdam autour du rapport Mueller. Si j'avais soutenu Trump en 2016, je soutiendrais Trump encore parce que je ne veux pas me dédire et parce que je vois qu'il y a un préjugé qui était là dès le début du côté démocrate.
Et du côté démocrate, quels bénéfices peuvent-ils tirer de ce procès s'ils n'obtiennent ni condamnation ni destitution de Donald Trump?
Je crois qu'en dernier lieu, ils cherchent à rétablir la moralité républicaine qui a été bafouée par Trump, mais c'était bafoué lorsqu'il y a eu l'invasion de l'Irak sous des prétences qui n'étaient pas véridiques, et même qui était bafouée, si l'on veut, dans le dernier processus en destitution contre Clinton.
Le politique Dick Howard avec Nadine Epstein. Un geste d'apaisement de la France vis-à-vis des États-Unis. Paris propose de suspendre pour cette année le paiement des acomptes sur la taxe GAFA, la taxe numérique, et ce, le temps qu'un accord soit trouvé à l'OCDE. L'information est tombée il y a moins d'une demi-heure. Il s'agit de montrer que nous sommes de bonne foi, explique une source proche du ministère de l'Économie. Le Forum économique de Davos, on en parlait, s'est donc ouvert aujourd'hui. Une 50e édition placée sous le signe du risque climatique. La jeune militante Greta Thunberg a d'ailleurs, comme l'an dernier, fait le déplacement. À l'ouverture des débats, elle a une nouvelle fois interpellé les grands de ce monde, estimant que rien n'avait été fait pour le climat et que les émissions de CO2 n'avaient pas diminué. Réponse il y a quelques minutes de Donald Trump devant l'intéressé. Le président américain a fustigé les prophètes de malheur et les prédictions d'apocalypse. La vigilance est de mise partout dans le monde face au virus qui frappe actuellement la Chine et plusieurs pays d'Asie. L'Organisation mondiale de la santé tient demain à Genève une réunion d'urgence. Ce virus semblable au SRAS et transmissible entre humains a fait 6 morts dans l'Empire du Milieu selon un dernier bilan. Face à cette épidémie, certains pays commencent à prendre leurs précautions. Les précisions de Nathaël Charbonnier.
Les mesures de prévention concernent notamment les aéroports des pays qui accueillent des vols en provenance de Chine et plus particulièrement de la ville de Wuhan où a débuté l'épidémie, c'est-à-dire les États-Unis, la Thaïlande, Singapour ou encore l'Australie. Dans tous ces pays, les autorités ont décidé de durcir les mesures de contrôle pour les voyageurs. Conséquence, la coopération entre États est renforcée, échange de données sur les malades présumés, distribution de tracts en anglais, en chinois pour les personnes qui voyagent. Il faut dire que l'on est certain maintenant que la transmission du virus peut se faire d'homme à homme. L'inquiétude est de mise, d'autant que certains scientifiques expliquent que le nombre de personnes déjà atteintes serait plus important que celui annoncé par les autorités chinoises. On pourrait en savoir plus dès demain, puisque l'Organisation mondiale de la santé tiendra à Genève une réunion d'urgence consacrée au mystérieux virus. Le comité devra déterminer s'il convient de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, une qualification qui n'est utilisée que pour les épidémies les plus graves.
Et en France, pas d'annulation de vol en provenance de Chine pour l'instant, estime la ministre de la Santé. Selon Agnès Buzyn, l'épidémie reste cantonnée pour le moment. La directrice financière de Huawei, le géant chinois des télécommunications, sera-t-elle extradée vers les États-Unis ? Réponse à l'issue de la longue semaine d'audience qui vient de s'ouvrir au Canada, devant la plus haute cour de Colombie-Britannique, à l'ouest du pays. Meng Wanzhou, arrêtée il y a un peu plus d'un an à l'aéroport de Vancouver, est accusée d'avoir tenté de contourner l'embargo américain contre l'Iran. C'est aussi la fille du fondateur de Huawei. Une arrestation qui a donc provoqué beaucoup d'émoi en Chine, Pékin parlant de graves atteintes aux droits humains de la victime. Pascal Guéricolas nous appelle de Montréal.
Le bras de fer entre la directrice financière de Huawei et les procureurs canadiens entre dans sa phase finale après une période d'échauffement entamée cet été. Hier et aujourd'hui, ce sont les avocats de Meng Wanzhou qui tentent de convaincre le tribunal que leur cliente n'a pas commis de fraude commerciale selon les lois canadiennes. En effet, l'embargo américain contre l'Iran n'a pas d'existence juridique dans le pays de l'érable. Ce genre de cause n'a rien d'habituel dans les cas d'extradition. Généralement, les présumés criminels concernés par ce traité ont commis des meurtres ou des vols. Le Canada marche sur des œufs dans cette affaire. Il doit respecter l'entente d'extradition qui le lie aux États-Unis, tout en ménageant ses relations avec la Chine. Ce pays n'a pas hésité à arrêter et à emprisonner deux Canadiens depuis 13 mois en mesure de rétorsion à l'arrestation de Meng Wanzhou. Pendant que cette dernière attend en liberté surveillée dans une maison de luxe, Michael Kovrig et Michael Spavor survivent dans une cellule chinoise, en espérant que toute cette affaire va bientôt se régler.
Pascal Guéricolas pour France Culture. C'est une statistique qui frappe. En France, un juif sur trois se sent menacé. Résultat d'une enquête menée par l'IFOP pour la Fondation pour l'innovation politique et l'American Jewish Committee. 70% des juifs disent même avoir subi un acte antisémite dans leur vie. Pauline Renoir, bonjour.
Bonjour.
Alors cette enquête, elle a été réalisée auprès de 1600 personnes de confession ou de culture juive et elle a le mérite d'éclairer ce qu'on pourrait appeler l'antisémitisme du quotidien.
Oui, celui qui frappe à l'école, au travail, au coin de la rue. 64% des juifs interrogés disent avoir subi une agression verbale dans leur vie, des insultes, des menaces. 23% ont déjà reçu des coups, des gifles. Le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier, ne s'attendait pas à de tels résultats.
C'est une étude qui en montre la constante progression. Nous ne savions pas que 70% des Français juifs avaient déjà vécu un acte antisémite. On ne savait pas que cet antisémitisme actif frappait à ce point les nouvelles générations.
Les 18-24 ans sont en effet les premières victimes. 84% des jeunes juifs interrogés ont déjà été moqués ou agressés. Et le nombre d'actes continue d'augmenter selon Dominique Régnier.
Il y a clairement quelque chose qui s'est passé depuis le début des années 2000. Il y a aussi un nouvel antisémitisme qui se manifeste depuis ces années-là, qui est un antisémitisme qui s'alimente de l'islamisme, clairement. C'est d'ailleurs pourquoi on trouve plus de confrontations, d'expériences de l'antisémitisme actif, violent, parmi les jeunes générations que parmi les plus anciennes générations, bien que le chiffre soit élevé dans les deux cas. C'est en raison de la poussée de ce nouvel antisémitisme.
L'autre problème, c'est le silence des victimes par peur ou bien par lassitude. La plupart ne portent pas plainte.
La sous-déclaration est considérable. 70% des Français juifs qui ont été victimes d'un acte antisémite ne sont pas allés déposer plainte. Quand vous changez de rue ou que vous changez de quartier, parce que vous craignez une agression antisémite, vous n'allez pas préalablement déposer plainte. Voilà, c'est très largement sous-déclaré.
Il y a eu en France 541 actes antisémites en 2018. C'est encore plus pour 2019, selon Fondapol. Les chiffres seront rendus publics dans quelques semaines.
Merci, Pauline Renoir. La CGT Énergie revendique une coupure de courant qui a affecté ce matin le sud de la région parisienne, dont le marché de Rungis et l'aéroport d'Orly. Une action menée contre la réforme des retraites. Il s'agissait, explique le syndicat, de marquer les esprits, d'avoir un impact sur l'économie et surtout de se faire entendre. Lutter contre les contenus haineux sur Internet, c'est l'objectif de la proposition de loi Avia, de retour à l'Assemblée cet après-midi en deuxième lecture. Le texte avait été voté à une très large majorité en juillet dernier, mais il a été détricoté par le Sénat, ce dernier supprimant sa mesure phare, l'obligation pour les réseaux sociaux de retirer les contenus haineux sous peine d'amende. En commission, les députés ont rétabli cette obligation. Le gouvernement est convaincu qu'il faut sévir, ce n'est pas l'avis des opposants au texte qui dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Maxime Tellier.
Pour le gouvernement et la majorité à l'Assemblée, il y a urgence à agir face à la haine en ligne qui concerne aujourd'hui plus de 10% des messages publiés sur les réseaux sociaux, d'après une enquête du cabinet Netino. La rapporteure de la proposition de loi, la députée En Marche Laetitia Avia, affirme donc que le statu quo ne peut pas durer et qu'il faut responsabiliser les plateformes et les internautes en créant un nouveau délit de non-retrait de contenu haineux. Les propos racistes, discriminatoires, les insultes sont concernés. La loi oblige Facebook, Twitter, YouTube, etc. à retirer ces messages en moins de 24 heures sous peine d'amende allant jusqu'à 1,25 million d'euros. Toutefois, ces arguments ne convainquent pas les opposants. Le Conseil national des barreaux, le Conseil national du numérique, la Quadrature du Net, la Ligue des droits de l'homme, Wikipédia, qui ont écrit une lettre ouverte reprenant les critiques de la Commission européenne notamment, qui dénonce une privatisation de la liberté d'expression confiée aux algorithmes des géants du numérique avec le risque d'une sur-censure, les GAFA préférant sans doute retirer un contenu plutôt que de payer une amende. Le gouvernement répond que les réseaux sociaux seront encadrés par le CSA, dont le rôle sera renforcé, et que la justice pourra toujours être saisie en cas de suppression abusive de contenu. Après l'Assemblée nationale, le texte retourne au Sénat à la fin du mois. Mais au final, ce sont les députés qui auront le dernier mot. Laetitia Avia prévoit déjà une entrée en vigueur de la loi d'ici fin mars.
Décryptage de Maxime Tellier. À moins de 2 mois des élections municipales, la campagne s'anime, et notamment à Montpellier. D'ailleurs, elle n'est pas sans répercussions nationales. Le week-end dernier, le bureau exécutif d'Europe Écologie Les Verts a décidé décidé d'écarter sa candidate Clotilde Ollier, qui est pourtant en tête des sondages. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire que l'intéressée ne compte pas en rester là.
Je continue, je serai la première maire écolo à Montpellier. Le ton est donné ce matin sur les antennes de France Bleu Hérault. Clotilde Ollier assume et justifie son engagement.
Je ne fais pas cavalier seul, j'ai été élue par une primaire organisée par mon parti Europe Écologie Les Verts. Et c'est certainement pas à trois bureaucrates parisiens de descendre et de décider pour 800 Montpelliérains et Montpelliéraines qui se sont déplacés à une primaire. Ça n'existe pas, nulle part.
On ne peut pas faire plus combatif, alors que lui reproche-t-on officiellement de ne pas s'approprier toutes les propositions écologistes sur l'urgence climatique, comme l'interdiction du diesel en ville à partir de 2025. C'est absurde, clame la candidate, déjà en guerre contre les pesticides au niveau local, mais le problème serait plus profond. Le remplacement de son directeur de campagne, un cadre montpelliérain d'Europe Écologie Les Verts, par un universitaire politologue. La semaine dernière, une médiation a bien tenté d'apaiser les tensions. En vain, autre grief évoqué, le rapprochement de la candidate avec le mouvement Confluence, composé de nombreux insoumis. On ne peut pas accepter une gestion solitaire de la campagne, quels que soient les sondages, explique Sandra Rogol, la numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts.
Ce n'est pas Clotilde Ollier qui est en tête des sondages. Ce sont les valeurs promues par les écologistes qui sont en tête des sondages partout en France. Le socle de 20%, c'est celui qu'ont nos candidats, candidates, un peu partout, quand ils développent un projet profondément écologiste.
Alors, sans le logo d'Europe Écologie Les Verts, Clotilde Ollier va donc poursuivre sa campagne, alors qu'une assemblée des écologistes montpelliérains choisira début février une autre tête de liste.
Merci à Pierre Neveu. Invité de ce journal, la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson. Bonjour. Bonjour Madame Brune Poirson. On vous retrouve en direct du ministère de l'écologie. On va vous retrouver dans quelques minutes. Brune Poirson, dont le texte contre le gaspillage que vous défendez, revient aujourd'hui devant l'Assemblée en deuxième lecture. Nous avions prévu de vous entendre. Brune Poirson, en direct du ministère de l'écologie. Bonjour madame.
Bonjour à vous.
Secrétaire d'État donc à la transition écologique et à vos côtés Stéphane Robert pour vous interroger. Brune Poirson, d'abord une réaction au sujet qu'on vient d'entendre et plus largement, on voit qu'à Montpellier mais aussi à Besançon, Bordeaux, Lyon ou encore Marseille, les Verts ont le vent en poupe à moins de deux mois des municipales, même si on l'a entendu parfois c'est compliqué. Ça veut dire quoi? Vous n'arrivez pas et donc les candidats à la République En Marche n'arrivent pas à convaincre que vous menez une politique pro-environnement?
Ah non, je ne pense pas que ça soit lié. Je crois qu'il y a une volonté d'une certaine partie de la gauche d'utiliser l'écologie pour renaître de ses cendres. Pourquoi pas? C'est une stratégie. En tout cas, nous portons la République En Marche, des valeurs écologiques qui sont très fortes, qui sont au centre de notre projet politique, comme nous le démontrons aussi chaque jour en agissant. Et c'est vrai que l'action, parfois, est plus difficile à expliquer parce qu'on est dans la complexité des sujets, parce qu'on doit allier, par exemple, écologie et solidarité, et que c'est plus compliqué de faire que de faire des promesses sur un coin de table qui parfois s'apparente, et moi j'ose le mot, à un certain populisme vert qui vise à faire croire que tout serait faisable du jour au lendemain très facilement. Et ça, c'est pas la réalité des choses, parce que malheureusement, l'écologie dans la réalité, si vous ne voulez laisser personne au bord du chemin, eh bien c'est complexe, ça demande de discuter et ça demande aussi de se laisser un peu de temps pour faire les choses. Et le réalisme, la volonté de changer les choses dans la réalité, en profondeur, et surtout sans mentir, puisque le mensonge est l'essence même du populisme, eh bien, c'est difficile et ça fait moins beau sur un plateau télé ou sur une radio.
Question de Stéphane Robert.
L'un des emblèmes de votre action en matière de défense de l'environnement, c'est la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire qui sera votée définitivement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été facile de l'adopter. Il y a eu finalement une commission mixte paritaire donc entre sénateurs et députés qui ont validé cette loi le 8 janvier dernier, mais ça a duré 3 ou 4 mois, les débats, des débats contradictoires, avec une opposition très forte, notamment au Sénat, contre un article de l'article 8 qui prévoit un dispositif de consigne sur les bouteilles en plastique. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça a été si difficile et si long?
Alors, consigne sur les bouteilles en plastique et de façon à faire renaître le verre. Je précise simplement, mais effectivement, vous l'avez bien dit, nous et le projet politique, moi je crois que l'écologie doit rassembler, parce que c'est peut-être le projet de société le plus enthousiasmant qui soit. Et ce projet de loi, qui aujourd'hui a presque 140 articles, a été construit dans cet état d'esprit-là. Vraiment, dans la construction collective, avec les différents partis politiques, avec différentes parties prenantes. Et c'est pour ça que nous avons eu finalement peu de discussions et que ça a fait beaucoup l'unanimité. Simplement, il y a eu un petit combat politicien, sciemment monté en épingle pour en faire une polémique, parce que ce sont sur la consigne, effectivement. Pourquoi ? Parce que se sont rencontrés là deux choses. Des intérêts privé, de lobby, parce que c'est bien connu que le monde des déchets est tout sauf un monde angélique.
On va rappeler que les élus locaux voulaient vous accuser de vouloir leur voler une partie des recettes qu'ils touchent sur les filières qui sont déjà en place.
Oui, mais vous l'avez dit, c'est une accusation qui a été montée en épingle par certaines grosses entreprises du recyclage qui ne voulaient pas voir certaines de leurs pratiques changer. Vous m'avez, on a parlé tout à l'heure, avant que j'intervienne à la radio, brièvement, des containers qui reviennent de Malaisie. C'est face à ce type de pratique-là que moi, je m'attache à lutter. Et ça ne plaît pas à tout le monde, surtout dans le monde des déchets qui, comme je le disais, n'est pas un monde particulièrement transparent et particulièrement rigoureux dans le reporting qu'il fait de son travail. Donc il y a eu, je le disais sur la consigne, la rencontre entre un intérêt purement économique, industriel et financier de la part de certaines entreprises qui a rencontré un petit combat politicien. Il se trouve que le projet de loi, il a été discuté en première lecture et en commençant à l'Assemblée, au Sénat, qui est, c'est bien connu, un Sénat à majorité LR, donc contre le gouvernement, au moment de tous les congrès des maires. Et c'est un projet de loi qui rassemble beaucoup, notamment avec la création de nouvelles filières pollueur-payeur, qui revient à transférer presque 600 millions d'euros des industriels vers les collectivités. C'est un beau cadeau aux collectivités, c'est une grande avancée pour l'écologie, que l'opposition n'avait pas envie de nous voir mettre en valeur à l'heure des congrès des maires. Et donc, il y a une conjonction d'une lutte simplement politicienne avec des intérêts économiques. Et moi, je le regrette profondément parce que je pense qu'on aurait pu aller plus vite. Et je le répète, les maires et les élus ne perdront rien. Parce que contrairement aux fake news qui ont été diffusées avec la loi Grenelle 2, pardon, c'est un peu technique et j'en profite pour le dire, avec la loi Grenelle 2 de 2009, il n'est pas possible d'enlever de l'argent aux collectivités avec le développement de la consigne.
Au-delà de cette mesure sur la consigne, il y a tout un tas d'autres mesures, hein, notamment l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2040, j'en cite une parmi d'autres, parce qu'il y en a 130 articles. Il y a beaucoup d'associations qui disent que ce projet de loi manque d'ambition. Alors est-ce que c'est suffisant ou pas ?
Alors, plusieurs choses. Un, d'abord, si vous me citez des associations, leur raison d'être est de dire que ça manque d'ambition, puisque c'est la base de leur travail.
Enfin, elles sont pas les seules. Nicolas Hulot a dit la même chose en partant du gouvernement
En partant du gouvernement, on parle de mon projet de loi ou pas? Sur ce projet de loi-là, en question, il faut pas confondre, il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Et il y a les produits plastiques à usage unique, tout ça, ce sera interdit. Tous les plastiques à usage unique, plus d'une trentaine, et nous sommes le pays européen à aller le plus loin, voire dans le monde à aller le plus loin sur l'interdiction des produits plastiques à usage unique. Et il y a les produits jetables, en plastique jetable, c'est-à-dire tout ce que vous avez dans votre quotidien. Regardez autour de vous, votre bouteille de shampoing, votre tube de dentifrice, votre tube de liquide vaisselle, là où vous mettez vos produits détergents, bref, tout ça, nous voulons en sortir. Nous voulons passer d'une société du tout jetable autour réutilisable. Et pour ça, comment est-ce qu'on fait ? Il faut une vraie méthode de travail. On se contente pas de faire ce qu'a annoncé par exemple la Chine aujourd'hui ou ce qu'ont annoncé d'autres pays, se contenter de simplement éliminer le superflu autour de nous. On veut aller beaucoup, beaucoup plus loin en transformant en profondeur non seulement les habitudes des Français, mais aussi ceux qu'ils consomment. Nous voulons aller et passer à des emballages qui soient 100% réutilisables. Et pour ça, dans la loi, il y a des outils très concrets, des instruments comme le développement massif du vrac, comme le développement de la consigne, comme le développement de la réparation ou du réemploi des produits. Tout ça, ce sont des outils pour que les Français s'en saisissent.
Une dernière chose, vous allez à Davos ce soir, vous allez participer au Forum économique mondial.
Oui.
Greta Thunberg y était ce matin et déclare que rien n'était fait pour le climat. Qu'est-ce qu'un responsable politique français en charge de questions environnementales peut lui répondre ? Est-ce qu'elle se trompe ?
elle se trompe pas quand on regarde les faits et il faut aller effectivement plus vite. C'est pour ça qu'on a besoin de voix comme Greta Thunberg. Mais derrière, il ne suffit pas de dire ça. Il faut aussi trouver des solutions. Et les solutions, comment on fait? En écologisant intégralement la société. Et comment ça se fait? Ça se fait en partant, en parlant à tout le monde, en discutant, en transformant les choses en profondeur. C'est pour ça que les ambitions que porte la France, et je le rappelle, sur le plastique, nous sommes le pays le plus ambitieux au monde, et je vous le dis très sincèrement, eh bien, c'est cette ambition-là que nous voulons porter à Davos. Parce qu'il faut que l'Europe se saisisse aussi de cette mesure-là particulièrement ambitieuse. Il faut aussi que le reste du monde change et se transforme. Et ça ne se fera pas en restant replié sur nous, mais en allant parler directement à ceux qui doivent changer en profondeur, c'est-à-dire des dirigeants économiques comme il y a à Davos.
Merci beaucoup Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique, d'avoir été l'invité de ce journal. Merci aussi à Stéphane Robert avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. On termine ce journal avec un mot de météo. D'abord, la tempête Gloria qui a touché aujourd'hui les Pyrénées-Orientales, accompagnée de fortes chutes de neige en altitude, une tempête qui perturbe les transports et qui a privé 1000 foyers d'électricité. Au nord, la grisaille va se dissiper au fil des heures pour laisser la place à un ciel plutôt bien dégagé. À noter un vent fort en Méditerranée avec des rafales pouvant aller jusqu'à 90 km/h. Ce journal a été réalisé par Brice Garcia. Merci de l'avoir suivi.